Radio Kapi. Oh, Kapi.
Présenté par Belinda Bosuma, voici le sommaire. Ouverture hier à Kinshasa de la 19e réunion des ministres de la Défense des pays de la région des Grands Lacs. Occasion pour le ministre congolais de la Défense nationale de plaider pour une solidarité agissante et pour le renforcement des coopérations militaires entre les États membres. Ces assises se tiennent en prélude au 9e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CIRGL. Le centre hospitalier Ushirika de Goma, en difficulté de fonctionnement, en cause la suspension du soutien des organisations humanitaires dans la prise en charge des victimes de violences sexuelles et des enfants atteints de malnutrition. Les responsables de ce centre lancent un SOS aux autorités compétentes. Et puis, l'invité de ce midi, Théodore Ngwama, directeur général adjoint de Sakima dans le Maniema, il parle de la situation actuelle de cette société de l'État et revient sur la récente conférence sur les mines, l'énergie et les infrastructures, conférence tenue récemment à Kindu. Madame, Messieurs, bonjour. La 19e réunion des ministres de la Défense des pays de la région des Grands Lacs a ouvert ses portes depuis hier à Kinshasa en présence de la première ministre Judith Suminwa. À l'ouverture de ses assises, le ministre congolais de la Défense nationale a plaidé pour une solidarité agissante et pour le renforcement des coopérations militaires entre les États membres de cette région d'Afrique. La chef du gouvernement congolais, elle, dit se réjouir que la CIRGL demeure un instrument de dialogue et de solidarité africaine. Plus de détails avec Blaise Ndongala Mayanda.
Ces assises sont organisées en prélude du 9e sommet des chefs d'État et des gouvernements des pays de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs prévue le 15 octobre courant dans la capitale congolaise. La première partie de cette rencontre a porté sur l'analyse des défis sécuritaires persistants auxquels la région des Grands Lacs est confrontée en se focalisant sur les tensions dans l'est de la RDC et au Soudan du Sud. Le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale de la RDC, Guy Kabombo Mwanyavita, a souligné que les défis sécuritaires touchant cette partie du continent, notamment le terrorisme, la prolifération des armes ou encore les menaces transfrontalières, exigent une solidarité agissante et une coopération militaire renforcée. Pour sa part, la première ministre a exprimé sa conviction que cette réunion dégagera des orientations fortes et réalistes capables de traduire la volonté politique des États membres sur terrain. Judith Suminwa a réaffirmé l'engagement de la RDC en faveur d'une paix durable et de la concertation et de la coopération régionale afin que les armes s'éteignent et que la confiance renaisse entre les peuples de cette région.
Pendant ce temps, en Ituri, les autorités coutumières et les acteurs de la société civile recommandent au gouvernement congolais d'accélérer le processus de désarmement des groupes armés avant la fermeture des bases militaires de la MONUSCO dans les groupements Pamitouame et Mbrebou situés dans les territoires de Djougou et Mahagi. Selon eux, cette démarche est essentielle pour éviter la résurgence des violences qui pourraient compromettre les efforts de paix déjà engagés dans ces zones. Cette recommandation a été formulée à l'issue de la mission d'évaluation de la MONUSCO clôturée jeudi sur place. Le point avec Isaac Remoyope.
La présence des casques bleus pendant près de 7 ans a permis de stabiliser les groupements des Pamitouame et Mbrobo, longtemps marqués par l'activisme des groupes armés, a rapporté des sources locales. Grâce à cette accalmie, des milliers de déplacés ont pu regagner leur village. Les activités agricoles et économiques, interrompues pendant plusieurs années, ont repris dans la région. Les marchés communautaires, notamment celui d'Amé, qui rassemblait chaque semaine plus de 10 000 personnes, ont également contribué à renforcer la cohésion sociale. Mais pour les chefs des groupements des Pamitouame, mais tous ces acquis risquent de disparaître avec la fermeture des bases de la MONUSCO. Même inquiétude exprimée par les chefs d'Embrobo où les casques bleus avaient installé leur base à Bali. Il estime qu'il faut d'abord désarmer tous les groupes armés avant toute fermeture.
Ils doivent attendre l'aboutissement du processus et le voir réussir. Qu'ils observent comment évolue le désarmement des groupes armés, c'est cela qui va aider notre population.
Pour sa part, la délégation de la MONUSCO a rassuré que les anciennes bases seront remises aux FRDC qui y établiront leur campement pour garantir la sécurité des populations. Les casques bleus continueront d'appuyer l'armée congolaise à travers des patrouilles à longue portée afin de préserver les acquis de paix dans la région. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Entre-temps, les forces armées de la RDC dénoncent les attaques visant leur position par les rebelles du M23 dans les provinces du Nord et du Sud Kivu. Dans un communiqué publié samedi soir, le porte-parole des FARDC accuse le mouvement M23 soutenu par le Rwanda d'avoir mené des assauts contre les villages de Bulambula et Kibanda-Mangobo, situés à la limite des territoires de Walungu et Shabunda, ainsi que Tuetue dans le territoire de Fizi. Assauts menés par les Twagineo, alliés du M23 dans le Sud Kivu. Le général-major Sylvain Ekenge, porte-parole des FARDC, explique dans cet extrait choisi par Ronéline Tibonera.
Ces dernières 72 heures, plusieurs positions des forces armées de la République démocratique du Congo ont été la cible des attaques de cette coalition terroriste au sud Kivu, au nord Kivu. Les attaques sont concentrées à Kasopo et à Kajinga, au groupement Nyamaboko 1er, secteur de Osobanyungu, en territoire des Massissi, sans oublier la tentative d'occupation du mont Irimui vers Bunyatenge dans le territoire de Lubero. Les forces armées de la République démocratique du Congo prennent la communauté internationale et les négociateurs américains et qataris à témoin face à cette attitude non respectueuse des engagements souscrits dans le cadre des négociations en cours. Soucieuses de la sécurité des populations martyrisées, les forces armées de la République démocratique du Congo ont pris toutes les dispositions pour s'opposer à toutes les provocations de la FCM-23.
Parlons du Sud Kivu. Notez que les habitants de Penekusu dans le territoire de Shabunda dénoncent les tracasseries dont ils se disent victimes de la part du colonel autoproclamé JP, issu du groupe du général autoproclamé Pumbafu. Selon des sources sur place, ce milicien accompagné de ses subalternes impose à la population des amendes basées sur des infractions imaginaires. Par exemple, si la paille recouvrant une maison est emportée par un ouragan, il en rend le propriétaire responsable et exige une amende pouvant atteindre 50 000 francs congolais assortie des deux coques, rapportent des sources locales. Cette situation est confirmée à la fois par des sources administratives et par la société civile. Un acteur des forces vives locales indique que le même phénomène est observé dans le village de Kiluza, situé à 48 km de Penekusu. Là-bas, des élèves sont arrêtés lorsqu'ils ne parviennent pas à payer à temps les frais de contrôle de dossier. Témoignage d'un habitant recueilli par Ronéline Tibonera.
Et l'autre, dans la Kabbalah, ils se disent les RM, les autres RM et Tombouctou. Et les autres qui sont à Penekusu se disent être Bazalendo. Ce qui fait qu'il y a déjà une contradiction par rapport à leur vision, à leur façon de travailler, à leur mode opérationnel. Alors on attend voir ce qui va se passer concrètement. Ils disent à l'État congolais de sécuriser la population et leur bien. Sans cela, en réalité, on risque même de voir des déplacements massifs de la population vers d'autres provinces, surtout la province voisine ici de Maniema. Il y a un peu d'accalmie, mais ici, l'insécurité chaque jour. C'est pour cela, alors que nous sommes dans une période où les gens cultivent, ils entretiennent leurs champs, ils font les entretiens, alors là, c'est compliqué. Donc, en tout cas, c'est bon que l'État congolais, le gouvernement congolais, gouverner les provinces, soient en réalité flexibles avec nous, pour qu'ils envoient même d'autres forces républicaines pour nous sécuriser ici. Sans cela, on risquerait même d'être en difficulté avec nos patriotes qui nous sécurisent ici.
Je vous le disais en titre, au nord Kivu, le centre hospitalier Ushirika de Goma traverse une période critique depuis la suspension du soutien des organisations humanitaires dans la prise en charge des victimes de violences sexuelles et des enfants atteints de malnutrition. Selon sa directrice des nursing, cette rupture compromet gravement la continuité des soins et met en péril la santé des personnes les plus vulnérables. Le centre est désormais contraint de référer ses patients vers d'autres structures et de limiter le traitement de ceux qu'il soigne. Face à l'urgence, un appel à l'aide est lancé aux autorités pour éviter l'aggravation de cette crise. C'est un reportage rendu par Jean Gandou.
Autrefois soutenu par les organisations humanitaires, le centre hospitalier Ushirika de Goma fonctionne aujourd'hui sans aucun appui. Conséquence, le centre ne peut plus traiter les malades comme avant, surtout les personnes les plus vulnérables, en particulier les victimes des violences sexuelles et les enfants souffrant de malnutrition. Écoutons à ce sujet les explications de la directrice nursing de l'établissement Immaculée Foura.
Quand on avait les partenaires, les victimes de violences sexuelles étaient accompagnées financièrement. Il y avait aussi des kits de dignité qui étaient réservés pour eux. Mais actuellement, la structure est vraiment incapable de les prendre en charge dans cette façon. Même chose aussi pour les services de nutrition. Nous avons les partenaires qui nous appuyaient avec les pamplénates, les intras, les médicaments, certaines formations. Mais actuellement, il n'y en a pas. Les cas que nous recevons actuellement, non seulement c'est le point médical.
Madame Foura ajoute qu'il est particulièrement douloureux pour les personnels soignants de voir des personnes démunies ayant besoin de soins sans pouvoir leur apporter l'assistance nécessaire. Un autre acteur du secteur dit espérer que les efforts diplomatiques porteront rapidement leurs fruits afin que les autorités puissent enfin se concentrer sur ces questions de santé rendues urgentes par les désengagements actuels des humanitaires suite à la crise de liquidité.
Rendons-nous dans la province du Tanganyika. Le syndicat des enseignants du Congo, SIECO, territoire de Moba, demande au gouvernement de disponibiliser les bulletins pour l'année scolaire 2025-2026 et surtout que la première période vient de se clôturer. Dans une déclaration samedi, le secrétaire permanent du SIECO Moba affirme que les parents versent 1000 francs congolais pour les bulletins scolaires, mais ce document n'est toujours pas disponible depuis l'année passée. On écoute à ce sujet Placide Muyumba dans ses propos recueillis par Paul Munanga.
Nous venons de constater que jusqu'à ce mois, la première période vient d'être clôturée où le gouvernement central n'a pas songé de déployer les bulletins scolaires pour l'année 2025-2026. Donc à ce stade, les enseignants sont encore obligés de proclamer la première période avec les spécimens de bulletins de l'année scolaire 2025-2026 qui jusque-là, les bulletins en propre ne sont pas encore déployés sur terrain. Alors que le parent d'élève, nous d'abord enseignants, nous sommes parents, nous sommes en train de liquider cet argent chaque début de l'année équivalent à 1000 francs par élève. Mais nous constatons que les bulletins ne sont pas jusque-là disponibilisés dans les écoles. Donc nous demandons beaucoup plus à l'excellence Madame la Ministre d'État, Ministre de l'Éducation Nationale, Monsieur l'Inspecteur Général, Chef du Corps des Inspecteurs, Monsieur le Secrétaire Général à l'UNC, de vous impliquer pour que, avant même la fête de Noël, que nous ayons le bulletin en dire pour éviter de nous faire travailler comme nous avons subi cette année qui venait de s'achever récemment.
Direction le Congo central. Nous apprenons que le marché Abaco est en pleine modernisation. Les travaux de construction de ce nouveau lieu de négoce situé dans la commune de Mvouzi à Matadi avancent sans entrave. Les vendeurs, principaux bénéficiaires de ce marché, se disent heureux et n'attendent que la fin des travaux pour s'y installer. Ils appellent donc au respect du calendrier des travaux. Plus de détails avec Nana Plurich Mambou.
Lancé récemment par les bourgmestres de la commune de Mvouzi, Oscar Mbuinga Tati, ces chantiers sont perçus comme une réponse concrète aux besoins pressants des commerçants de disposer d'un espace digne et sécurisé pour leurs activités quotidiennes. Financé à la hauteur de 15 000 dollars américains par l'Union européenne et l'ONG Diakonia à travers la structure COFED, la construction de ces marchés est exécutée par l'agence Splendid Construct pour une durée maximale de 3 mois. Le travaux qui avance normalement prévoit l'aménagement d'un centre de négoces moderne comprenant 64 tables et un pavillon. Chaque table aura une longueur de 1,50 m et sera surélevée de 90 cm, répondant ainsi aux normes d'hygiène et de confort exigées pour un marché moderne. Deux semaines après le lancement, la fondation est déjà placée et les exécutants procèdent actuellement à la séparation des pavillons où seront installées les tables. Ce qui donne de la joie aux vendeurs.
Je suis très satisfait du lancement des travaux au marché à Bako. Moi, je vends dans une boucherie. Mon souhait est d'intégrer les marchés et laisser la route libre pour les véhicules et les passants. Que les autorités nous aident en respectant les chronogrammes des travaux.
Matadi, Nana Plurich Mambou, Radio Okapi.
Merci de nous recevoir à Kisangani Boyoma. Ici, le personnel pénitentiaire de la province de la Tchopo plaide pour sa prise en charge par le gouvernement congolais. Ses agents l'ont exprimé au ministre de la Justice hier samedi lors de sa visite à la prison centrale de Kisangani. Le ministre Guillaume Ngefa séjourne actuellement au chef-lieu de la province de la Tchopo pour une mission officielle. Reportage de Jacques Moukonkole.
Les agents pénitentiaires furent munis de colère. Devant le ministre de la Justice, en visite dans leur maison carcérale, ils dénoncent leur non-prise en charge par l'État congolais. Certains affirment ne pas être mécanisés alors qu'ils travaillent depuis 2017 et même bien avant cette année pour certains. Et pourtant, ils sont confrontés à plusieurs défis liés non seulement à leur survie, mais aussi à la sécurité des détenus. Le représentant de ces derniers a aussi pris la parole pour plaider non seulement pour l'amélioration de leurs conditions carcérales, mais également en faveur des surveillants. Certains se livrent à la mendicité, souligne-t-il. Ils espèrent que la visite du ministre va apporter des solutions à leurs doléances. Au centre de détention d'Ossio, à plus de 16 km au sud-ouest de la ville, les 70 pensionnaires qui s'y trouvent ont plaidé pour l'amélioration de leurs conditions alimentaires. Le ministre de la Justice, Guillaume Nguefa, leur a promis de transmettre toutes ses préoccupations au gouvernement pour d'éventuelles solutions. Notons qu'à la prison centrale de Kisangani, le nombre de détenus est de plus de 1100 alors que la capacité d'accueil est évalué à 500. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Actualité internationale. La Cour suprême de Guinée a dévoilé hier dans la soirée la liste provisoire des candidats retenus pour la prochaine présidentielle. Parmi eux, 7 se présentent sous la bannière d'un parti politique. Les 2 autres, dont le président de la transition Mamadi Doumbouya, y participeront en indépendant. Entre-temps, une 30aine de dossiers ont été rejetés. Le pape Léon XIV a reçu ce week-end au palais apostolique le président de la République d'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa. La rencontre s'inscrivait dans le cadre d'une visite de travail du chef de l'État à Rome, destinée à approfondir les relations diplomatiques entre l'Afrique du Sud et le Saint-Siège. Selon un communiqué du gouvernement sud-africain, la rencontre visait à favoriser la compréhension mutuelle, faciliter les échanges culturels et aborder des questions d'intérêt commun entre les deux États.
L'invité.
Il s'agit de Ngwama Théodore, directeur général adjoint de la société Sakima de Kindu dans le Maniema. Dans cet entretien à Radio Kapi, il revient sur la 2e édition de la conférence sur les mines, l'énergie et les infrastructures tenue au Maniema du 3 au 5 novembre en cours. Il décrit également la situation que traverse cette société de l'État. Ngwama Théodore est avec Florence Kizalunga.
Monsieur Nguabateo, bonjour.
Bonjour madame.
Il y a quelques mois, on nous a parlé de relance des activités de Sakima. Nous sommes à quel niveau?
Écoutez madame, situer les niveaux, c'est un peu difficile de le dire parce que c'est toujours le financement qui intervient avant toute chose. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a déjà 2 ou 3 semaines passées, notre directeur de participation est passé par ici avec nos partenaires de MMR. On s'est associé pour commencer le commerce de monazite dont nous avons le matériel qui sont installés à Lubutu. Et je crois que d'ici là, les résultats vont commencer à tomber.
Les résultats vont commencer à tourner. Comment situer la population?
Oui, la population n'a qu'à attendre. Quand ça tourne, il y a des retombées qui tombent sur la population. On ne va pas travailler avec toute la population. Il y a un petit nom, un petit groupe avec lequel on travaille. Les retombées, c'est la population locale qui en bénéficie.
Il y a certains qui pensent que Sakima est devenu un sac de problèmes. Est-ce ça?
Ça a toujours été un sac de problèmes parce que l'État propriétaire n'a pas investi beaucoup d'argent dedans pour pouvoir relancer. Faut pas penser que le Sakima est un cas isolé dans le pays. C'est le cas de la SNCC qui est une entreprise d'État qui a des problèmes parce que l'État n'a pas investi. Il y a la MIBA qui est dans la même condition qu'une entreprise minière. Il faut donner le temps au temps. Quand l'État propriétaire va donner les moyens qu'il va donner avec les nouveaux partenaires qu'on aura d'ici là, je crois que les choses vont reprendre.
Et actuellement, comment est-ce que vous travaillez parce que vous êtes dans le mine?
Oui, nous sommes dans les mines parce que c'est des carrés miniers qui sont les nôtres. Nous attendons, nous sommes en pour parler avec le Mercuria des Américains et nous attendons les deals quand le chef de l'État aura signé avec les Américains les deals. Et puis nous, ces services, on signe avec Mercuria et les choses vont pouvoir reprendre.
On vous accuse d'avoir signé des contrats qui ne bénéficient pas à la province mais bénéficient aux individus.
Est-ce qu'ils peuvent vous dire quels sont ces contrats? Posez-leur la question qui vous disent quels sont ces contrats qui bénéficient aux individus et non à la province. Mais la province, c'est une grande entité. On ne va pas signer le contrat, on ne le signe pas avec la province, mais c'est avec des individus qui vont travailler pour payer des taxes à la province. Ce n'est pas la province qui va travailler avec des entreprises, non.
Sakima bénéficie aussi du courant qu'il est en train de distribuer à la population et les gens se demandent, cet argent, vous faites avec quoi pour ne pas satisfaire normalement la population?
Et l'argent dont on parle de la SNEL, est-ce qu'ils peuvent situer à quelle hauteur ça se situe? Il faut poser la question à ces personnes qui vous parlent, vous leur demandez, montrez-nous d'abord la facture que vous avez reçue de la SNEL. Il y a des gens qui reçoivent des factures de 3 000 francs. Vous croyez qu'avec 3 000 francs, on peut relancer quelque chose? Il ne faut pas oublier que le central Rutshuru, il date de 1952. Il a vieilli. La capacité ne répond plus. Il faut laisser le temps. Parce que nous sommes en négociation avec la société STS qui va pouvoir rénover la centrale et le courant va pouvoir revenir à la normale.
Alors, vous avez participé à ces assises des 3 jours où on a parlé sur le mine, l'énergie et les infrastructures. Quel est le problème que Sakima a exposé et que le monde pouvait écouter?
La Sakima se retrouve dans le secteur des mines et de l'énergie parce que vous ne pouvez pas faire les mines sans énergie. Notre contribution se situe à ces deux niveaux. Nous avons les mines et nous cherchons à produire beaucoup plus d'énergie pour pouvoir booster les mines qui sont sous notre responsabilité.
Comment faire pour relever ces grands défis? Qui vous tient au cou?
Ces grands défis nécessitent des financements et il faut chercher des partenaires qui ont des moyens, qui puissent intervenir dans ces mines et les solutions pourront sortir de cette situation-là. S'il n'y a pas de partenaires sérieux, ça va être difficile pour nous.
Qui va chercher pour vous ces partenaires?
C'est nous-mêmes d'abord et l'État propriétaire. L'entreprise ne nous appartient pas, l'entreprise appartient à l'État. C'est l'État qui nous a mandatés. Quand l'État nous mandate, il faut qu'il nous donne la capacité de pouvoir relever ce dont tu nous as donné la possibilité de pouvoir faire comme travail.
Monsieur Ngouama Théodore, je vous remercie.
Merci beaucoup, madame.
Le directeur général adjoint de la société de l'État Sakima, qui est située à Kindu, répondait aux questions de Florence Kizalunga. Par ici prend fin ce journal coordonné par Jean Gandou, à la mise en onde Alain Goy. Merci d'avoir été des nôtres.